Je bénis Dieu pour tous les moments que l'on passe ensemble. Je bénis Dieu pour toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Vous savez, Dieu parle. Dieu parle au travers de sa parole, la Bible. Dieu parle par le Saint-Esprit. Et Dieu parle aussi par les circonstances. Les circonstances nous ont amené beaucoup. Moi, je suis très attentif en fait à ce qui se passe, les jours, les semaines qui passent, tous les événements qui se ressemblent, comment Dieu fait cheminer les choses, les circonstances dans notre vie. Et je bénis Dieu pour déjà le message que je vais partager, qui sera la conclusion en fait finalement de ce que j'avais déjà partagé auparavant et auquel point en fait finalement des frères, des sœurs, des gens ont partagé. On a déjà une partie à Père Guillaume, une partie a été apportée par notre frère Jean Calvanana. Et ce soir, je voudrais parachever ce que j'avais déjà préachevé auparavant. Donc, avec la parabole de la semence, ou autrement dit, la parabole des terrains et de la semence. Donc, je vous invite ce soir à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Rangueil, Toulouse, 31 100. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crûrent, du verbe croître, avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le chemin, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Tentation, c'est aussi épreuve. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 4 de cette saison, de cette série de la parabole des terrains. Donc nous allons voir la semence dans la bonne terre. Nous avons vu que cette semence, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu rencontre la bonne terre, elle porte du fruit. Mais la parole de Dieu rencontre tellement et tellement d'obstacles pour croître et porter du fruit. On a vu que les différentes terres ne représentaient pas forcément un type de personne. Ce n'est pas une personne qui est le long du chemin. Ce n'est pas une personne qui est le roc ou un terre rocailleux. Ce n'est pas une personne qui a des épines. Mais c'est aussi et très fortement des saisons de notre vie où en fait notre cœur est comme un de ces terrains. Si je vous pose ces questions ce soir, est-ce que vous saurez vous identifier? Est-ce que vous saurez identifier la disposition de votre cœur ce soir? Est-ce que vous arriverez à répondre peut-être rocailleux, peut-être les épines parce qu'il y a eu la fatigue, les soucis de la journée, ou alors le long du chemin parce que on pense à autre chose. On regarde si Jean il a mis la cravate, si du coup sa chemise ne dépasse pas, s'il a bien repassé sa chemise. Et peut-être que ce qu'il faudrait, et ce qu'on pense à chaque fois lorsque je viens dans la présence de Dieu, c'est d'être dans cette expectation, dans cette attente de ce que Dieu va nous parler, de ce que Dieu va agir. Et qu'on prie, c'est pour ça que j'encourage, et j'ai encouragé encore les jeunes dans le groupe WhatsApp, et de ce que je nous encourage à chaque fois que l'on se réunit, pour nos temps de réunion, pour nos temps de réunion de jeunesse, pour nos temps de culte, pour nos temps de alpha, ou toute réunion où l'on se rassemble, de prier pour ces réunions, que le Saint-Esprit agisse encore et encore, qu'on prépare encore. C'est pour ça que lors de Let It Shine, on priait encore et encore, bien avant l'événement. On préparait le terrain encore et encore, que les cœurs soient disposés, que les choses se fassent selon vraiment l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'objectif de ce soir, et chaque fois que l'on réunit, on est là aussi pour entendre, écouter ce que Dieu veut nous dire. Sinon, on serait juste passé un moment, et c'est très bien, moi j'aime énormément la communion fraternelle, vous me connaissez bien, mais on est aussi là pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et ce serait tellement dommage de passer à côté de cela. Donc, on prend nos gants, on travaille notre terre pour recevoir favorablement la parole de Dieu. La semence tombe dans la bonne terre. Qu'est-ce que j'observe ? C'est que la terre a été bien travaillée. C'est fertile, tout marche comme il faut. On n'est plus sur le chemin, sur la terre, le long du chemin. Il ne s'agit plus de prendre attention à la forme ou à l'apparence ou à la manière. On n'est plus sur les pierres, on les a retirées. Donc la dureté du cœur, les faux raisonnements, nos forteresses dans notre tête. On n'est plus les épines ni les ronces, parce que les soucis de la vie, on a dit « Ok, c'est bon, on les met de côté, parce que je reconnais que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. » Et que même si j'ai des soucis, je veux faire cet effort pour écouter ce que Dieu a à me dire. Parce que je reconnais que la parole de Dieu, c'est celle qui va m'aider, c'est celle qui va porter la vie en moi. Et je veux qu'elle fasse effet. Et si l'espace d'un instant, je peux mettre toute ma volonté, toute mon énergie, toute ma force à écouter ce que Dieu a à me dire et à mettre de côté mes soucis, alors je serai gagnant. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je reviens encore dessus, je veux mettre l'accent vraiment dessus. Pour comment ? J'écoute avec un cœur honnête dans ma vie et non pas les choses qui m'arrangent. C'est comme le roi David lorsque le prophète Nathanaël va lui dévoiler son péché. Dévoiler le péché de David, donc le meurtre et l'adultère, ce n'était pas ce qui arrangeait le roi à l'époque. Je pense que ça n'arrange personne d'ailleurs quand on dévoile ça. Mais il était celui qui avait un cœur authentique et honnête. Pourquoi ? Parce que lui, il pensait à long terme. Le roi David, lui, ce qui l'importait, ce n'était pas la réputation. Ce n'était pas que le peuple pouvait le discréditer. Ce n'était pas qu'on pouvait penser du mal de lui. Lui, ce qui l'importait le plus, c'était sa relation avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Redonne-moi la joie de ton salut. Un cœur bon, c'est-à-dire un cœur bien disposé. Je veux tout déposer afin de recevoir. Je veux avoir ce vif désir de comprendre. Vous savez, on dit la parole de Dieu, oui, c'est facile à comprendre, etc. La parole de Dieu a été écrite dans une culture, traduite dans un français vieux d'il y a quelques siècles. Aujourd'hui, qu'on essaye encore de retranscrire avec notre langage d'aujourd'hui parce que le français évolue au fur et à mesure du temps et auquel les ministères de la parole et d'autres essayent encore de vulgariser la chose afin qu'on essaie de comprendre. Mais on a aussi notre part à faire, d'essayer de comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette parabole ? Expliquer et enseigner encore maintes et maintes fois. Que veux-tu me dire encore une fois quand tu me dis de donner ? Que veux-tu me dire encore de travailler ? Que veux-tu me dire encore quand tu me dis d'avoir la foi ? Seigneur, explique-moi tout ça. Je connais tous ces concepts de manière superficielle. Mais en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire ? quelle est cette réalité en moi? Je sais qu'il faut aimer mon frère, je sais qu'il faut aimer ma sœur, je sais qu'il faut aimer mon prochain, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je veux écouter avec ce cœur bon, ce désir de comprendre ce que tu veux me dire plus en profondeur. Je veux avoir ce cœur qui retient la parole. Je n'ai pas oublié ce que tu me dis. Vous savez, on peut passer tellement de temps avec les week-ends spirituels, avec les week-ends de jeûne, des réunions fantastiques, des rassemblements nationaux, internationaux, auxquels on a vécu des émotions fantastiques, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons extraordinaires, l'action du Saint-Esprit. Et on revient de là, les premiers jours, on est tout feu, tout flamme. Le Seigneur est grand, le Seigneur est tout puissant. Béni soit Dieu, alléluia, gloire à Dieu. On a passé un bon culte, on a passé une bonne réunion. Mais un mois plus tard, on a oublié. On a oublié ce que Dieu a fait en nous. On a oublié la parole de Dieu qui a agi en nous. Ce dont on se souvient, c'est qu'on a passé un bon moment. Ce dont on se souvient, c'est qu'il y a eu baptême dans le Saint-Esprit, mais qu'après, on ne le cultive pas. Ce dont je me souviens, c'est que oui, Dieu m'a touché, m'a consolé sur le coup, mais j'ai oublié. Que Seigneur mon Dieu, on puisse ne pas oublier ce que tu nous as dit, ce qui s'est passé à Père Guillaume, dans les retraites spirituelles, dans nos week-ends de jeunesse, dans nos journées de jeunesse, dans chaque fois où on a vécu des choses extraordinaires encore et encore et encore. Que ce ne soit pas juste des souvenirs comme une bonne ambiance, comme si on était allé dans une fête dehors ou alors de vivre les émotions parce qu'on a vu un film au cinéma avec plein d'émotions parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui recherchons à vivre des émotions. Waouh, j'ai peur. Waouh, ce film était trop drôle. Ou triste, ou alors ça m'a touché, ça m'a marqué, parce que ça, les Américains savent le faire très bien. Les Asiatiques aussi, d'ailleurs. Les films sont là, oui, ça nous touche dans nos tripes, pourquoi pas. Mais qu'on n'en reste pas juste aux émotions, mais qu'on soit là à retenir les choses principales. La parole de Dieu, c'est ce qui donne vie dans nos vies. Ce n'est pas les émotions. Les émotions, c'est que la conséquence de la parole de Dieu qui nous a touchés. Et j'écoute avec un cœur plein de persévérance, c'est-à-dire avec constance. Il ne s'agit pas d'écouter une seule fois ou de travailler la terre une seule fois. Vous savez, c'est comme à la maison. Si vous balayez qu'une seule fois chez vous, la poussière revient le lendemain. Et si vous dites, ben moi j'ai déjà balayé une fois, ça suffit. Ben la poussière, elle persévérera, et elle sera toujours là, et elle s'accumulera jour après jour. Le ménage, c'est tous les jours. De la même manière, lorsqu'on entend par exemple les mêmes enseignements, il est bon aussi, et c'est pour ça que je bénis Dieu pour toutes les fois où les dernières semaines, on a entendu encore parler de la parabole des différents terrains et de la semence. Parce que ça se complète. Il y a des aspects qu'on s'est complétés les uns les autres, et je bénis Dieu pour tout cela. Et encore une fois, si un jour, dans les prochains jours, on entend encore parler de cet enseignement, béni soit Dieu, parce qu'il y a des aspects que je voudrais encore connaître et savoir. Béni soit Dieu pour tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Ce que je sais, c'est bien, je le renforce. Ce que je ne sais pas, ça me permet de le compléter. Ainsi, je porterai de la semence. Ainsi, je porterai du fruit. Vous savez, lorsque la Bible a dit « la semence portera du fruit 30, 60, 100 », je pense parfois que c'est aussi dépendant de notre capacité d'écoute. 30, c'est déjà bien, déjà parce qu'on porte du fruit. Avec le peu que j'ai, peu, c'est un bien assez arbitraire, mais avec ce que j'ai, avec ces 30, je porte déjà du fruit. C'est déjà énorme. Mais si je peux faire mieux encore, 60, c'est extraordinaire. Et si je peux encore faire beaucoup, 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 beaucoup mieux, ce serait 100. Et là, c'est encore, c'est jackpot. Imaginez le nombre de fois des personnes qui ont écrit des enseignements par rapport à la parabole du semeur, la parabole des terrains. Le nombre d'ouvrages, le nombre de prédicateurs qui ont enseigné dessus, c'est incroyable. Mais si on les lisait tous et qu'on captait tout ce que se disait, on porterait du fruit encore plus. Chaque fois que l'on est là, on porte du fruit. On voudrait. C'est ce que veut dire cette expression que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En somme, je veux, j'ai soif. Alors je me mets à disposition d'écouter, de tendre mon oreille. C'est un peu ce que dit Jacques dans le chapitre 1, au verset 19. Il le dit ainsi, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, donc mes frères bien-aimés, c'est des croyants, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, c'est-à-dire assez vif à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Jacques parle à des croyants et il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Les croyants sont normalement sauvés. Mais du coup, c'est sauvé de quoi ? Peut-être qu'on se croit dans des faux raisonnements et on peut se détourner. Et qu'à force de répéter les choses, en fait, on peut rectifier pour revenir sur le bon chemin, sauver nos âmes dans le chemin du salut. Entre parenthèses, je fais un petit détour. Vous savez, c'est Paul qui parle aux Philippiens et dit « Mais je vous répète ces choses, car cela vous est salutaire. Et je ne m'en lasse pas. Je ne me lasse pas de vous répéter ces choses, car cela vous est salutaire. » Et répétez les mêmes choses encore et encore, car ça, c'est salutaire. Je continue avec Jacques. Verset suivant. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Je rajouterai seulement. C'est pas bien de rajouter. « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Oui, il a bien prêché. J'ai compris le précepte, j'ai compris le message. Deux jours plus tard, j'ai juste oublié. La mise en pratique, ça nous permet de retenir les choses. Vous savez, quand j'étais en cours, il y avait plein de théories en biologie sur plein de choses, je ne comprenais rien du tout. Mais une fois que je suis passé en stage dans un laboratoire à faire des expérimentations, je fais « Ok, là je comprends mieux, c'est plus concret. » On m'a réexpliqué la théorie, je l'ai mis en pratique juste après et j'ai retenu. De la même manière, lorsque les principes sont enseignés de la parole de Dieu, de la parole de vie, « Seigneur, aide-moi à les mettre en pratique, de suite, là, maintenant. Donne-moi maintenant juste à sortir et à écouter. Donne-moi encore à chaque moment où on se rassemble, il y a un enseignement, un chant, ou une prière, une prophétie, Seigneur, d'écouter attentivement, mais aussi de le mettre en pratique. Seigneur, si tu me demandes de prendre courage, alors je veux prendre courage pour cette situation. Seigneur, si tu me demandes de sortir de ma zone de confort, alors je veux sortir de ma zone de confort. Si je suis timide, alors demain j'irai évangéliser. » Etc., etc. Et dernier verset, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est la conséquence. J'écoute, je mets en pratique, je suis heureux dans mon activité. C'est comme lorsque, vous savez, avant d'avoir mon fils, j'ai beaucoup posé de questions, j'ai demandé énormément de conseils, je me suis préparé. Alors évidemment, c'était un peu difficile pour moi de mettre en pratique, mais au moment où mon fils est né, c'est là que j'ai pu mettre en pratique toutes ces choses-là. J'étais préparé pour ces choses-là. Pour le mariage, c'était pareil. Pour le couple, c'était pareil. Et pour tant d'autres choses, c'était pareil. Lorsque nous avons fait Let It Shine, peut-être que certains d'entre nous, on savait, entre guillemets, peut-être témoigner, évangéliser, prier, mais on a pris quand même le temps, à un moment donné, de se former encore avec l'association Moins de Blabla, Plus de Cœur. Et je bénis Dieu pour ces moments, parce que y a tellement de manières de témoigner de l'amour du Christ que là, ça complétait encore, même s'il y avait peut-être des experts, entre guillemets, au milieu de nous. Mais encore et encore, on apprend. Encore et encore, on apprend. Vous savez, on écoute souvent les choses que l'on aime bien ou souvent les choses dont on se pose les questions et dont on voudrait la réponse de suite. Jésus n'était pas la réponse forcément au premier regard des gens. Si on regarde le Nouveau Testament, l'Évangile, Dieu s'est fait homme, Jésus est incarné sur la terre des hommes et il guérit les malades. Tout le monde comprend parce que à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde est malade. La lèpre, certains handicaps, la fièvre, plein de maladies. Aujourd'hui, on va remplacer par cancer, Covid, gastro, etc., etc. Donc Jésus répondait et il guérissait. Ok, chouette, super. Maintenant, il y a plus loin que ça. Jésus sauve. Et il a dit trois fois, à trois reprises à ses disciples, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et donne sa vie. Et les disciples, ils ne comprenaient pas. Ils croyaient être ultra spirituels, surtout Pierre, en disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. » Ils ne comprenaient pas ce message du salut, ce problème plus important. Et il a fallu du temps, et encore qu'il y avait des enseignements, que les circonstances viennent aussi parler à ces disciples-là. Jésus sauve. Si aujourd'hui vous allez dehors et qu'on parle du salut, ils disent « Mais l'avenir, c'est pas grave, de toute façon, j'irai au paradis avec toutes les bonnes œuvres. Ou alors j'irai en enfer parce que de toute façon, le diable a fait une place pour moi, donc moi, ça ne me dérange pas du tout. » On a toutes ces conceptions où en fait, finalement, aujourd'hui, lorsqu'on parle du salut, ça ne parle pas aux gens. Alors que l'Évangile parle du plus grand problème de l'homme et de l'humanité, c'est-à-dire le péché. Cette séparation qui fait que du coup, nous étions destinés à l'enfer. Alors que Jésus est la solution pour la réconciliation. L'Évangile parle, si on pousse un peu plus loin la réflexion sur le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes, Jésus est mort et ressuscité. Il envoie une promesse, il dit « Attendez-moi à Jérusalem et je vous enverrai le Consolateur. » Encore une fois, dans la tête du disciple, « Parlez-moi d'un Consolateur, parlez-moi d'un Saint-Esprit. » C'est super abstrait. Mais lorsque ça arrivait le jour de la Pentecôte, c'est là qu'ils ont vécu les choses. Parlez-moi d'un Jésus qui revient. On croit que nous avons le temps. Mais lorsque on prêche un Jésus qui revient, cela nous encourage et nous exhorte à nous maintenir, à veiller. Ce que Jésus avait déjà enseigné lorsqu'il parle de la parabole des 10 vierges, lorsqu'il parle encore d'autres paraboles. Et une des exhortations, c'était encore de veiller, encore et encore. Vous savez, on se maintient sur les choses que l'on veut. Et majoritairement, c'est Jésus qui guérit. À la limite, quand on pousse un peu plus loin, c'est Jésus qui sauve. Mais lorsque Douglas Scott, dans les années 1920, est venu en France, cet instrument entre les mains de Dieu qui a porté ce réveil en France, il est venu avec ce message de Jésus guérit. Jésus sauve, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Mettre l'accent que sur une seule chose, parler que de deux aspects, ce n'est pas le plein évangile. L'évangile que nous enseignons, l'évangile que nous partageons, c'est l'évangile avec ses quatre fondements. Oui, Jésus guérit, encore même au XXIe siècle. Jésus sauve encore, même au XXIe siècle. Jésus baptise de l'Esprit. Même au XXIe siècle. Et Jésus revient. C'est pour ça que nous devons veiller. On ne peut pas dire parce que ça m'arrange, parce que ma problématique c'est ça. Non, mon espérance se fonde sur les quatre fondements. Je comprends. Et après, j'ai reçu la semence. Et après, j'ai écouté, je comprends et je mets en pratique. Et après, Notre mandat est de partager ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a donné. Je veux le partager. J'ai reçu l'amour du Christ, je veux le partager. J'ai reçu la parole de Dieu, je l'ai bien comprise, au mieux que je peux, mais je peux encore même mieux faire. Mais ce que je sais, ce que je comprends déjà, je veux le partager. C'est ainsi ce que dit Matthieu 28, le grand ordre de mission. Matthieu 28, 19, 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. » Louis II 21 dit, traduit ainsi, « À mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez compris de moi, Jésus-Christ. Enseignez, partagez, mettez-le en pratique pour qu'eux aussi y mettent en pratique. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La promesse de Dieu. Ce que j'ai compris, je veux le partager. Si vous voulez essayer un jour de savoir si vous avez bien compris les choses, prenez un enfant et essayez de lui enseigner la croix. Si vous arrivez à lui enseigner la croix, ça veut dire que vous avez assimilé l'œuvre de la croix. Parce que vous saurez comment lui communiquer le salut de la croix, par la croix. Comment expliquer à mon prochain, oui, je sais, on me parle tellement de la croix, encore et encore et encore et encore. Je connais par cœur, oui, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Oui, Jésus guérit, je connais par cœur. Mais saurais-tu le partager à quelqu'un qui ne sait pas du tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est mort sur la croix? Pourquoi Dieu a permis qu'il soit mort sur la croix? Ça veut dire quoi, racheter à cause de son sang qui a été versé? C'est quoi la pureté, la sainteté? Aujourd'hui, ou dans ce monde, en fait, tout cela devient inconnu. Tout cela ne devient que tradition. Aujourd'hui, lorsque j'entends la parole de Dieu, j'enseigne, Seigneur mon Dieu, je te prie afin que tu puisses m'aider à transmettre ces concepts qui sont inconnus. On passe de Louis II 1910 à Louis II 21 avec les mots d'aujourd'hui, pour que ces mots soient plus accessibles. On a d'autres traductions comme la semeur, parole vivante, parole de vie. Pourquoi? Pour qu'en fait l'évangile soit aussi plus compréhensible. Aujourd'hui, à nous qui vivons au XXIe siècle. Et nous devons parler le langage des autres pour qu'ils comprennent le message de l'Évangile. Et pour parler, le communiquer, n'est-il pas important de comprendre pourquoi les subtilités, la profondeur de message? Ésaïe 54, 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Il est évidemment question de Messie et question de Jésus. Mais ne sommes-nous pas imitateurs du Christ? Ne devons-nous pas être ces imitateurs du Christ? D'être de ceux qui ont cette langue exercée. Pourquoi? Parce que matin après matin, j'exerce mon oreille. J'exerce mon oreille pour écouter ce que Dieu a à me dire. J'exerce à chaque réunion ce que Dieu a à me dire. J'exerce lors de mon culte personnel, lors de mon entretien avec Dieu, lors de mon rendez-vous avec Dieu, ce que Dieu veut me dire. Pourquoi? Pour que je puisse avoir une parole à propos pour pouvoir encourager mon frère, ma sœur, mon prochain. Seigneur, donne-moi une parole à propos pour relever celui qui est faible, celui qui est fatigué, celui qui est dans le deuil. Non pas une parole, je dirais, évangélique, une parole toute faite, une parole cliché, mais une vraie parole inspirée du message de Dieu. Et juste pour conclure, évidemment, écouter, c'est pas facile. Et c'est souvent ce qui a fait défaut au peuple d'Israël. Le nombre de fois que le peuple d'Israël n'a pas su écouter. Et cela a tellement desservi, Ils ont connu tellement et tellement de complications. Et aujourd'hui, sommes-nous meilleurs qu'eux? Oui, mais on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'écouter le Saint-Esprit? Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que sa parole nous dit. Les circonstances confirment juste ce que le Saint-Esprit et la parole disent. Les trois unis, ça fait vraiment la confirmation de la parole de Dieu. C'est notre mandat. Ok, témoigner. Ok, exhorter. Mais autant le faire bien, en ayant d'abord bien compris aussi les concepts de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire. Qu'à chaque instant que Dieu me donne un rendez-vous, je sois dans cette disposition de cœur, de cette bonne terre, qui reçoit pour porter du fruit. Je veux porter cette parole à propos. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier pour ta parole, Seigneur Jésus. Je veux te remercier pour ce que tu dis, Seigneur Jésus, et je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, me laisser submerger par mes émotions ou par, Seigneur mon Dieu, tous mes faux raisonnements, par tous mes soucis ou par les passions de ma vie, Seigneur Jésus. Je veux te laisser la place en premier parce que je veux reconnaître, Seigneur mon Dieu, que ta parole est première dans ma vie. Elle est celle qui porte le plus de fruits dans mon cœur. Ce fruit qui me transforme jour après jour, qui transforme ma colère en joie, qui transforme ma haine en amour, Seigneur mon Dieu, qui transforme ma vie, Seigneur mon Dieu, de manière inattendue. Seigneur mon Dieu, je veux te connaître encore de plus en plus dans les plus grandes subtilités, Seigneur mon Dieu. Je me refuse de croire, Seigneur mon Dieu, que je connais tout de toi, Seigneur mon Dieu. Mais même si c'est des enseignements parfois classiques, Seigneur mon Dieu, aux enseignements les plus pointus, Seigneur mon Dieu, de ta parole, je veux la retenir, mettre en pratique, mettre en application, Seigneur mon Dieu, comme cela aussi a été dit, Seigneur Jésus. Je veux la mettre en pratique afin que mon âme, ma chair, Seigneur mon Dieu, ne l'oublie pas. Seigneur mon Dieu, je te prie de nous aider à aller de l'avant, que ce soit pas juste théorique ce que nous entendons, que ce soit pas juste intellectuel ce que nous avons, ce que nous comprenons, Seigneur mon Dieu, mais que ce soit, Seigneur mon Dieu, assimilé dans tout notre être, Seigneur mon Dieu. Cette parole, elle est le pain de vie, Seigneur mon Dieu, et nous voulons, Seigneur mon Dieu, l'assimiler afin que tout notre être entier, Seigneur mon Dieu, transpire Christ, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons refléter. Et Seigneur mon Dieu, que le fruit de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, se développe en nous. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider dans ces différentes situations où parfois c'est difficile, Seigneur Jésus, d'écouter ta parole, de répondre présent à ces rendez-vous, Seigneur mon Dieu, et de répondre présent. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous aider. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments, mon Dieu. Amen.